Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne au cœur de Wimbledon. Je rappelle qu'on est le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale qui, mine de rien, approche à grands pas. Il y aura Grimbé un peu avant, mais l'Omnium approche très rapidement. Je rappelle que Sur la ligne également est le producteur aussi officiel de la semaine radio à BPM. C'est ce qu'on a fait l'année passée et je pense que tout le monde était bien satisfait. Ça a bien le fun de revoir toute la gang en onde. Nico va être à Toronto également. On pourra profiter de ses services en direct de Toronto. D'ailleurs, Nicolas Richard, comment te portes-tu? Est-ce que tu es allé jouer au golf sous la pluie ce matin?
Non, je couvrais le golf. Cependant, j'ai joué en fin de semaine avec ma raquette Babola Hugues et tu seras content d'apprendre que je suis séduit. L'adaptation sera longue, mais je suis séduit quand même.
Hugues, comment te portes-tu et crois-tu en chance de Nico d'améliorer son jeu avec sa Babola?
C'est des très bonnes raquettes, Babola, comme les Wilson et comme les Yonex. Donc, c'est surtout le joueur derrière la raquette qui fait la différence. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Mais ça, c'est toujours le gros problème.
Mais content d'avoir passé le Middle Sunday de Wimbledon. Plein de choses intéressantes à dire. Et Alex, je rajoute sur ce que tu disais pour l'Omnium Banque Nationale. On fera aussi l'avant-match cette année sur l'écran géant du cours central. Donc, sur la ligne, sera sur place, évidemment, comme l'année dernière avec un studio sur le central. Et on mettra la table pour tous les matchs, toutes les sessions, en fait, là, durant la semaine du tournoi. On a bien hâte de se retrouver tous ensemble là-bas. Mais oui, quelle première semaine de Wimbledon. Et des surprises là, qui commencent à s'enchaîner en ce moment. On va en parler un petit peu plus tard. Andreeva qui est sortie du côté féminin après une run incroyable pour une jeune fille de 16 ans et Christopher Eubanks qui vient de sortir de Tsitsipas. Je tiens à le dire d'entrée de jeu parce que c'est quand même une histoire vraiment importante. Chris Eubanks, 27 ans, qui gagne en ce moment.
Ouais, c'est une histoire intéressante, Chris Eubanks. C'est d'autant plus qu'on en a parlé la semaine passée parce qu'il avait quand même bien fait dans un tournoi sur gazon. Et c'est un gars qu'on découvre d'une certaine manière parce qu'il a un charisme absolument fou. Là. Eubanks, on sait déjà que si sa carrière de tennis n'est pas trop longue, il risque d'avoir une carrière en télé ou comme commentateur, quelque chose comme ça. Isabelle, tu es avec nous cette semaine. Comment te portes-tu? Es-tu en direct du chalet ou tu es en ville?
Non, je suis en ville parce que, bon, j'ai du hockey ce soir. C'est la Living Sisu Hockey League, là, du 3 contre 3 d'été avec les meilleures joueuses du côté féminin et masculin là, des professionnels le mardi et le lundi soir. Fait que je suis en ville et moi, mon tennis a bien été avec ma Yonex. La joueuse a bien fait ça. Elle a gagné sa partie en fin de semaine. Fait que ça va bien.
C'est quoi le score?
On s'entend qu'on n'est pas au niveau professionnel. Là. Un 6-4?
OK, un 7. Un 7.
C'est un set d'une heure, nous autres. Là. C'est d'endurance. Là, à 35 degrés, je n'étais plus capable à ma fin.
Ben, une heure, c'est un bon set. C'est un bon set. Contente de t'avoir avec nous, Isabelle. Puis fais-nous donc un petit update là, pendant qu'on t'a sur qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'en vient peut-être. Femme d'hockey, j'imagine que tu es en préparation pour la saison prochaine. C'est un des podcasts qui va le mieux au Québec et qui monte le plus rapidement. On est bien fiers de toi pour ça. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Est-ce que tout est sous contrôle dans ce podcast-là?
Bien, en fait, c'est sûr qu'on fait la préparation. Le balado, le podcast Femmes d'hockey, comme on le connaît, va reprendre au mois d'octobre. Mais là, cet été, on est actif, bien entendu, au niveau tennis, mais aussi, comme je disais à l'entrée de jeu avec la Living Sisu Hockey League, vous allez voir, on va vous faire des petits topos avec les joueurs et les joueuses sur le Sisu. Vous viendrez me suivre sur mes médias sociaux de Femmes d'hockey ou de Living Sisu pour savoir ce que Nick Suzuki a à nous dire, Marie-Philippe Poulin. Vous allez voir, ça va être intéressant.
Femme d'hockey est vraiment devenue une espèce de référence de hockey en général, là, hockey féminin, puis tu as eu beaucoup d'intervenants vraiment incroyables. Alors, félicitations. Lâche pas ton beau travail de ce côté-là, puis de nous, de notre côté, ben, on est bien contents de t'avoir avec nous autres. Cela dit, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Et on va commencer comme on le fait à chaque année, Oui, à chaque année, mais à chaque épisode, surtout avec les performances canadiennes. Et je veux qu'on commence avec Félix Auger-Aliassime. Nico, que penser de son parcours? Est-ce que c'est une autre déception? Peux-tu trouver du positif dans le cas de Félix Auger? Donne-moi ton feeling.
Oui, je suis capable d'en trouver et je pense qu'il faut en trouver. J'ai écrit un papier, notamment une analyse là-dessus sur le site de la presse en début de semaine passée. Je trouve que les amateurs de tennis sont très, voire trop sévères. Je trouve dommage qu'on mette déjà sur l'autobus cette carrière déjà exceptionnelle que connaît Félix Auger-Aliassime. T'sais. Oui, il a perdu. C'est pas une bonne saison, puis il est le premier à le reconnaître. Après, il y a plusieurs trucs à prendre en considération. D'abord, les blessures. Félix n'a jamais été autant blessé. Il a été chanceux depuis 4-5 ans. Il a été épargné. On l'a vu à Wimbledon dans son premier match. Il était momifié du genou. On voyait qu'il n'était pas à l'aise. C'était clair, net et précis. Après, on le dit souvent, mais c'est la pure vérité. Il a seulement 22 ans. Il est le quatrième plus jeune membre du top 15. Des tournois comme ça, des saisons comme ça, des séquences comme celle-là, il va en connaître d'autres et c'est normal. Alors oui, c'est décevant, évidemment, parce qu'avec son potentiel, avec son talent, on le sait qu'il est capable d'atteindre les plus hauts standards de ce sport-là. Mais ce genre de séquence-là, il n'en avait jamais connu. Toutes les autres joueurs en ont connu. Bianca en a connu une. Layla est présentement peut-être dans une sorte de séquence comme ça. Dennis également. Le saut autour de Félix, c'était prévisible. Il l'a vu présentement. Mais je suis convaincu que si ce n'est pas au US Open, ce sera en début de saison prochaine. Mais il reviendra parmi l'élite mondiale.
Nico, je trouve que c'est beau quand tu enfiles ta cape Canada, que tu la mets sur tes épaules, que tu trouves un peu de positif. Je suis content que tu me rejoignes dans la troupe parce que toi et Hugues avaient été par bout presque impitoyables, avec raison, j'ai l'impression quand même. Isabelle, commentaire sur Félix et après Hugues.
Bien, Félix a tous les outils dans sa boîte à outils. J'aime que tu dises il y a 22 ans, il ne faut pas oublier. Et quand on regarde sa performance, moi, ce que j'ai remarqué, je sens de l'hésitation. C'est dans le côté de la préparation mentale, j'ai l'impression. Oui, il était peut-être indisposé par son genou, mais je crois aussi que c'est le côté mental. Peut-être qu'il pourrait écouter la playlist d'Alexis Gallarneau de la pause Beneva. Ça va peut-être l'aider à se préparer. Non, mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune puis il faut qu'il continue dans la direction. Il faut qu'il réapprenne à gagner dans ce cas-là. Là. On le sentait des fois, là, c'est dans la partie, là, c'était qui avait besoin de confiance qu'il n'avait pas.
Oui, je pense que la pause qu'il entreprend va être salutaire. Là. Je pense qu'il a payé un peu pour le blitz qu'il a fait en fait saison 2022. Depuis le début de l'année 2023, on sait qu'il est monté au sixième rang. Il a joué beaucoup, beaucoup de matchs en fin de saison. Il a enchaîné les matchs, la Coupe Laver, les finales de l'ATP. Écoute, ça n'arrêtait pas là, à l'automne dernier. Puis je pense qu'il y en avait un petit peu trop, tant au niveau de son corps qu'au niveau mental. Donc, je pense que les quelques semaines qu'il a avant le Banque nationale vont être très payantes pour lui. Mais je suis content que vous disiez il n'a que 22 ans. C'est vrai. Et il va revenir, j'en suis convaincu moi aussi. Je n'ai pas de doute sur le potentiel et la réussite qui attend Félix. Cela dit, on le met toujours en comparaison avec ses contemporains. Et c'est là que, des fois, on va être un peu plus difficile envers lui quand on voit les résultats de Alcaraz et Rune à 20 ans seulement. Et les résultats de la génération juste au-dessus. Je mets Sinner dans le lot aussi. Sinner qui est toujours à Wimbledon en ce moment, qui fait tout un tournoi. Et Félix aussi, par rapport au Rublev, Medvedev, Zverev, il est comme entre les deux. Et on dirait qu'on l'oublie un peu là-dedans et il n'est pas dans ce peloton de tête en ce moment, mais il sera de retour, c'est une question de temps.
Moi, Hugues, je veux t'entendre sur un élément parce que tu as fait référence, Nico, à quelque chose, tu dis, il était momifié, tapé de partout, comme on dit. L'épaule visiblement l'embête, le genou visiblement l'embête. On a toujours dit quand le service va, tout va pour Félix Auger-Aliassime. Mais là, si le genou fait mal, l'épaule fait mal, je veux dire, comment tu peux maximiser une de tes principales armes? Parce qu'on va se dire, Félix, il est un des meilleurs serveurs au monde quand il est en forme et c'est sa principale arme. Et c'est une arme tellement importante, particulièrement sur gazon. Est-ce que dans un état juste un peu mieux, on aurait pu envisager peut-être une victoire? Hugues? Je ne sais pas, est-ce que mon analyse fait de sens ou pour toi, c'est juste... C'est juste une autre défaite comme le reste des autres défaites.
Oui, mais c'est les pourcentages de réussite en première balle, tant au niveau de son pourcentage de première balle qui passe que de points gagnés en première balle, sont moins bons depuis le début de l'année qu'à la fin de la saison. Où il jouait, on n'oubliera pas, ces tournois qu'il enchaînait, c'était à l'intérieur, donc dans des conditions parfaitement contrôlées. Et son service était un petit peu moins létal du côté extérieur, que ce soit à Miami, ou Indian Wells durant Sunshine Double, ou en Australie, et à Wimbledon. Mais tu as raison, si sa première balle n'est pas à 100%, surtout sur une surface extrêmement rapide comme le gazon, ça va le désavantager un peu. Mais Alexandre, oublions pas que tous les joueurs jouent un peu blessés aussi. Là, je pense qu'il y avait un genre d'accumulation de choses. On le dit tout le monde, il y a un côté mental qui joue là-dedans. Et tout d'un coup, tes petits bobos te font plus mal si la confiance n'est pas là, si tu te sens moins bien. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi l'étendue de ces blessures. Est-ce que les opérations qui s'en viennent, tout ça, je ne crois pas qu'on est vraiment là. Je crois qu'il doit se reposer et se refaire une santé tant mentale que physique. Et il va revenir au plus haut plan, j'en ai aucun doute.
C'est un peu la nature de mon point, Hugues, dans la mesure où j'ai envie de dire que tous les grands joueurs parviennent à s'adapter. Nadal a gagné un grand chelem avec le pied cassé. Federer a été le serveur le plus précis de sa génération avec pas de dos. Fait que oui, évidemment, tous les joueurs ou presque et les joueuses jouent blessés. Il n'y a personne qui est à 100%. Alors, il faut trouver des manières de s'adapter et elle est là la différence entre un joueur élite et un joueur qui marque l'histoire du tennis. Je ne suis pas en train de dire que Félix va le faire, mais il demeure pas moins que les grands noms de ce sport-là ont toujours trouvé le moyen de s'adapter. Je suis convaincu. Vous demandez à Djoko comment il sent. Il va dire j'ai des bobos là. Mais il pourrait gagner un grand chelem calendaire. Fait que la différence, elle est là.
Ça n'arrivera pas puisque Carlos Alcaraz, je le répète, va remporter Wimbledon, Nicolas. Mais je veux vous entendre sur un autre élément et ce sera le dernier sur Félix Auger-Aliassime. C'est Maxime Vanhoute qui me posait la question cette semaine à BPM Sport. Puis je trouvais que la question était pertinente. Il m'a dit, tu sais Alex, l'année passée, Félix, il a poussé beaucoup en fin de saison pour aller chercher des titres, pour pouvoir aller chercher plus de points, pour participer au final de l'ATP. Nico, est-ce que on peut voir les conséquences de ça aujourd'hui ou selon toi, c'est pas nécessairement relié?
Ben oui, et Félix me l'a confirmé il y a quelques mois. Il dit « j'ai trop joué ». Peut-être que si c'était à refaire, je gérerais mon calendrier différemment, mais tu ne peux pas regretter ce qu'il a fait. Il a gagné 3 tournois, gagné la Coupe Davis. Je veux dire, c'est un conte de fées qu'il vivait. Alors, mettez-vous à sa place. Comment tu veux arrêter quand ça va aussi bien? C'est évident que ça va le rattraper. En fait, ça le rattrape présentement. Il n'a jamais été blessé comme il l'est présentement. Tu en as fait mention tantôt. Le genou, le dos, problème gastrique. Là, c'est le temps de prendre une pause avant le swing nord-américain. Mais oui, c'est évident que cette séquence-là, autant elle aurait été bénéfique pour sa carrière, pour sa renommée, pour son classement, mais il en paye les prix aujourd'hui.
Mais c'est là qu'on voit la gestion, l'importance de la gestion du calendrier. Quand je vois des joueurs en ce moment qui pointent comme Berrettini, qui arrive un petit peu de nulle part, comme Dimitrov, qui fait un tournoi exceptionnel, je lui donne des chances contre Rooney aujourd'hui. Ces gars-là orientent tout leur calendrier annuel sur les grands chelems, essentiellement. Et Félix a fait une stretch sur des tournois de moindre importance pour aller chercher un objectif qui s'était donné, c'est-à-dire participer au final de l'ATP, ce qu'il a réussi, et bravo. Mais là, il a hypothéqué une grosse partie de sa saison 2023 pour cet objectif-là en 2022. Je ne suis pas sûr qu'il ferait la même décision aujourd'hui parce qu'il paye pour. En Australie, à Roland-Garros, à Wimbledon, il y a 3 grands chelems qui sont passés déjà et des performances qui sont somme toute décevantes. Donc, je pense qu'il faut, dans la gestion du calendrier avec son équipe, mettre l'emphase sur les grands chelems et c'est ça qui va payer ultimement dans l'importance que ta carrière va avoir au niveau du tennis.
Intéressant, messieurs. Autre cas intéressant dans ce tournoi-là, c'était celui de Milos Raonic. Et là, on avait hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner parce qu'il nous avait donné de l'espoir là, dans son premier tournoi avec une belle victoire là, contre un joueur assez bien classé, là, Kecmanovic, qui est un joueur très honnête là, pour le dire simplement comme ça. Nico, il a perdu contre Tommy Paul après avoir gagné un match de premier tour contre Denis Novak. Mais même contre Tommy Paul, ça s'est joué à pas grand-chose. Honnêtement, je pense que c'est mission accomplie. Est-ce que je me trompe dans le cas de Milos?
Ben, complètement. Puis non seulement ça, contre Tommy Paul, il ne s'est pas fait lessiver. Là. C'est un 4 manches, dont 2 en bris d'égalité. Tu sais, Greg Langto sur BPM me demandait est-ce qu'on s'attendait à ça de Milos? J'ai répondu le plus honnêtement du monde. On ne pouvait pas s'attendre à ça de Milos parce qu'on n'avait aucun échantillon. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué de manière compétitive. Et là, revient en grand chelem. Oui, c'est sur gazon, mais quand même, on n'avait aucune attente. Là, il a vraiment époustouflé la planète tennis. Oui, ça reste un deuxième tour. Il ne faut pas s'emballer outre mesure, mais quand même, je ne sais pas c'est quoi ses plans à moyen et long terme, là, mais si Raonic peut continuer d'être aussi à l'aise sur le terrain aussi rapidement, ce ne peut être que des bonnes nouvelles.
Ouais, mais n'oubliez pas, les gars, que c'est sa meilleure surface. Moi aussi, je suis content de tirer Là, puis effectivement, contre Tommy Paul, c'était un match extrêmement serré en 4-7, mais je pense qu'il va évaluer où il en est vraiment après l'Omnium Banque Nationale. Il va dire, OK, est-ce que je continue d'enchaîner des voyages, de faire le tour du monde pour continuer ma carrière ou c'est trop difficile pour moi? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les réponses encore, mais qu'on risque d'en avoir d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il a fait des bons matchs sur gazon jusqu'à maintenant, encore une fois, sa meilleure surface. Mais s'il ne peut pas passer un deuxième tour, dans des tournois sur gazon, ça va vouloir dire quoi sur dur et sur terre battue? Donc, attention, moi, je pense qu'il y a des réponses qui sont à venir pour Miloš. Mais oui, il est revenu en forme, il a bien joué, ses missions accomplies, parce qu'on n'avait pas d'attente pour lui. En
fait. Mais Hugues, s'il veut jouer, je vais le prendre. Parce que pendant cette séquence-là, il était tellement beau, Miloš. Il était, j'ai pas envie de dire aussi bon qu'à l'époque, mais il était fringant, il était frais, il était vraiment très, très beau à regarder.
Oui, et fit physiquement, il a perdu du poids, il avait l'air bien, il voulait jouer, donc c'est un bonheur de le voir jouer. On l'adore, écoute, finaliste de Wimbledon, n'oublions pas, qui avait perdu contre Andy Murray. C'est un grand joueur canadien, on est content de le revoir, mais encore une fois, je pense qu'il en reste plus, il en reste moins devant que derrière.
Mais il y a quand même l'épaule qui, tu sais, moi ça me fait peur, là. Tu sais, son épaule, ça m'a, on l'a vu que ça a eu un impact aussi dans son jeu, là.
Oui, bien, tu sais, il a un historique de blessures quand même assez important, mais là, Raonic aussi, là, je dirais que ça s'en vient quand même une tendance chez les Canadiens. C'est à la mode d'être blessé assez sérieusement, là, et Milos n'a pas fait exception à ça. Pour mettre les choses en perspective là, pour les gens, puis pour ajouter aux commentaires de Nico et de Hugues, là, Tommy Paul, là, il venait de faire une finale sur gazon à Eastbourne. Alors, il vient d'affronter un gars qui l'a tenu, et ça s'est joué à quelques points là, quand même, parce qu'il y a eu des bris d'égalité dans ce match-là. Écoutez, c'est spectaculaire là, d'avoir un niveau de jeu aussi élevé après une absence aussi prolongée. Je veux dire, moi, j'aurais jamais gagé. Évidemment, la victoire contre Kecmanovic nous avait donné un certain espoir, mais c'était quand même difficile d'évaluer à quel niveau de jeu il allait avoir dans ce tournoi-là. Et honnêtement, mission accomplie. Il a sous-entendu que c'était peut-être son dernier Wimbledon. Enfin, on verra. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est au Canada. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va au moins se rendre au Canada de la façon dont il joue et de la façon dont il performe présentement. Son niveau de jeu est assez élevé pour qu'on puisse avoir de l'espoir pour quelques tours. Je sais pas, Nico, t'en penses quoi?
Oui, puis tu sais, il jouait si bien, puis je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais il y a même des fois, notamment au troisième set, où Tommy Paul semblait frustré de se dire « Ce gars-là est supposé être fini, je suis supposé le laminer, mais je ne suis pas capable parce que Miloš avait les réponses à tout. » Puis un Miloš qui est capable d'anticiper, parce que c'est un peu ça sa faiblesse à l'époque, pas assez rapide, pas assez d'anticipation, mais là, on dirait qu'il était capable de prévoir toutes les balles, toutes les attaques. Puis Alex, pour revenir donc à ce que tu disais, sur dur, chez lui, avec, j'imagine, des matchs sur le central ou des matchs qui vont être à heure de grande écoute, ça va être le temps pour Miloš de briller pour peut-être une dernière fois, puis je suis convaincu qu'il va vouloir et saisir l'occasion.
Intéressant. Bien hâte de voir ce qui se passera avec Miloš Raonic et de l'avoir au Canada. En tout cas, souhaitons-le, là, il n'y a rien de confirmé à ce niveau-là, mais j'ai l'impression qu'on a des bonnes chances de le voir. C'est mon feeling. Autre joueur dont on a parlé beaucoup, c'est Denis Shapovalov. Et là, dans le cas de Denis, je suis mi-figue, mi-raisin. Je pense que dans le contexte, c'est plus que satisfaisant. Mais de la façon dont les choses se sont déroulées dans le dernier match, j'ai l'impression qu'on aurait pu espérer un peu plus. Nico, je commence avec toi.
Hey, t'as complètement raison. C'est dommage dans la manière dont il a perdu ce match-là contre Safiulin. Parce qu'il l'avait vraiment dans les câbles. C'était uppercut, crochet, uppercut. Pour vrai, Denis était en phase. Il était en phase dans cette première manche-là. Malheureusement, Denis étant Denis, on dirait que ses démons l'ont comme rattrapé. Puis moindrement, quand ça s'est mis à glisser quelque peu, là, c'en était fait pour Denis. Mais belle semaine pour Shapovalov. J'ai envie d'y aller avec un bilan positif plus que négatif, même si c'est pas que du positif, évidemment. Mais en deuxième semaine, de se rendre là, avec l'aplomb qu'il avait lors des matchs 1, 2 et 3, vous savez ce que je pense de cette saison de Denis. Elle est, oui, décevante, mais j'ai encore l'impression qu'il pourrait faire une percée qui à l'Omnium, qui au US Open, s'il peut jouer de cette manière. mais une belle semaine en rétrospective pour Denis.
Écoute, moi, Nicolas, j'ai regardé ce match-là dans ma voiture. Écoute, j'avais mon iPad parce que je devais être en...
Tu devrais pas dire ça publiquement, Isabelle.
Hein?
Tu devrais pas dire ça publiquement. La police va partir après toi.
Ben non. Je regardais sur mon iPad et j'étais tellement désolée de le voir. Dernier set, je le voyais pleurer tellement que j'avais l'impression que ça lui faisait mal. Ça faisait mal physiquement, mais aussi à son orgueil. Je ne sais pas comment vous l'avez exprimé, ces moments de découragement, mais c'était pas l'ombre de lui-même. Le dernier set, c'était pas chapeau. Là. C'était pas lui là, qu'on avait vu au premier set. Là.
C'était comme une déchéance graduelle. Plus ça allait, plus c'était difficile. Puis il le savait que ce match-là, c'était terminé, mais il devait quand même le compléter. Oui, ça a été dur de voir Denis comme ça, surtout après de bons moments en début de semaine.
Oui, c'est un tournoi quand même plus que satisfaisant, je dirais, pour Denis, qui n'avait pas une bonne saison. Beaucoup de défaites au premier, deuxième tour depuis plusieurs semaines. Donc, je pense qu'il doit être content de sa performance à Wimbledon. Moi, j'étais un peu déçu de la gestion du début du deuxième set, où il y a eu plusieurs balles à 0-30. Il a commencé à parler à son box pour dire « Ah, il est vraiment chanceux, c'est vraiment de la chance. » Encore une fois, j'ai pas aimé son attitude à ce moment-là. Je pense que le match aurait pu prendre une autre allure s'il avait breaké en début de deuxième set. Je sais pas à quel moment son genou a commencé à vraiment lui faire mal, mais d'un point de vue mental, encore une fois, et concentration, il y a encore des lacunes, Denis, qui vont lui coûter cher dans plusieurs matchs. J'ai l'impression des fois que c'est encore un jeune joueur sur le circuit et c'est un gars d'expérience, mais il est un peu comme un chien fou des fois. On est capable du meilleur, comme de, je dirais pas du pire, mais du moins bon aussi. Donc, sa gestion de début du deuxième set où il aurait pu prendre une avance rapidement, il a un petit peu échappé et après, c'est la blessure qui a pris le dessus. Donc, c'était un peu triste, mais somme toute, encore une fois, bilan plutôt positif pour Denis Shapovalov à Wimbledon.
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et Nico, c'est drôle parce que, en fin de semaine, je nous ai pris en rediffusion dans la voiture et je suis tombé exactement sur le bloc où on parlait de Shapovalov et c'est toi qui disais « Écoute, je vais être satisfait s'il fait une deuxième semaine. » Et là, moi, j'avais mis les pieds sur les freins en disant « Écoute, s'il veut faire une deuxième semaine, il devra battre Casper Ruud. » Et là, il a été chanceux parce que Casper Ruud, d'ailleurs, on peut-tu faire un lien avec Félix et tout ça? On en a parlé en mars depuis le début de la saison, mais Casper Ruud, on était dit qu'on n'était pas surpris de le voir perdre s'il perdait tôt dans le tournoi et c'est encore ça qui est arrivé. Il y a d'autres membres du top 10 pour lesquels c'est compliqué. Ouais, là, peut-être, mais il reste que c'est quand même un joueur top 5 mondial. Là. Alors, mais là où je veux en venir, c'est que je pense que chaque victoire dans le cas de Shapovalov était satisfaisante ou presque dans le contexte de sa saison. Ouais. Et là, ben, qu'il fasse un quatrième tour comme ça, ce que Nico, tu avais à peu près visé, ben, écoutez, je pense qu'il peut dire mission accomplie dans la semaine qui aurait été celle-là parce que ça a été compliqué pour Shapovalov tout au long de la saison et je pense qu'on doit considérer ça comme un bon tournoi d'une manière ou d'une autre. Juste dommage, j'aurais aimé ça le voir contre Sinner, voir un match là, de quart de finale contre Sinner. Je suis convaincu qu'on aurait eu un bon spectacle. Ce sont deux showmen, deux gars qui peuvent être complètement spectaculaires. Alors voilà, ça c'est un petit peu la déception. Isa, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Shapovalov?
Ben, tu sais, moi, Denis, j'aime beaucoup le voir jouer. Je trouve que c'est un joueur qui est flamboyant. J'ai aimé son début de tournoi. Je trouve qu'il s'est bien géré, justement, mentalement. On le voyait, il y a des moments qui auraient pu s'emballer comme on le voyait avant. Il avait réussi dans la première semaine à bien gérer ses émotions. Malheureusement, la dernière partie, ça a été comme... C'était un beau début. Et je suis d'accord avec Hugues. Quand il est arrivé, il y a eu un moment où c'était 0-30, où il aurait pu... C'est là que ça a tourné. On dirait vraiment, puis après ça, bon, la blessure et le mental. Mais quand on regarde au quatrième set, il réussit à remporter ses services quand même. Tu sais, au début, là, ça a été un 3-3 jusqu'à ce qu'après ça, ça soit à la fin. Il s'accrochait. Puis moi, je veux lever mon chapeau. Ça faisait mal mentalement, ça faisait mal physiquement, mais il n'a pas abandonné. Il est resté sur le terrain pareil. Et il y a des joueurs qui n'auraient pas fait ça. Puis ça, il faut le souligner.
Ouais, c'est s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, chapeau, c'est d'être un fighter là. De façon générale, c'est un gars qui se bat. Ça c'est certain. On va faire une courte pause et retour. Ben on va regarder ce qui s'est passé du côté des femmes.
Offrez-vous un séjour à l'hôtel Montville durant ces belles journées d'été. Bénéficiez de l'offre Kissoup d'or, incluant un rabais de 15% sur le meilleur tarif, un petit déjeuner gourmand et un souper 3 services dans le restaurant de l'hôtel, tout en profitant d'une suite luxueuse en hauteur. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Le cours de yoga à l'Hôtel Montville est de retour le 23 juillet. Rendez-vous à 9h pour une séance de yoga collective inoubliable au 20e étage. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis grâce au partenariat avec l'Olé. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un petit déjeuner gourmand avec l'offre yoga et petit déjeuner. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne. On est au cœur de Wimbledon. On est à peu près à mi-chemin du tournoi. On a fait le résumé du côté des hommes dans le premier bloc. Parlons du côté des femmes. Je veux qu'on passe rapidement, Nico, sur la performance de Leila. On attendait une autre performance au deuxième tour contre Caroline Garcia. C'est ce qu'on avait visé. On se disait, elle est peut-être prenable dans le contexte. Tous les matchs ont été serrés. Malheureusement, c'est un copier-coller de ce qu'on a vu dans le passé. Un match serré. Mais c'est encore une victoire de Garcia. Elle semble avoir une espèce de bête noire. Là. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Là. Peut-être en train de devenir le cas pour Leila avec Garcia.
Oui, puis ça reste une top 10 mondiale. Il ne faut pas l'oublier, même si Leila, elle, demeure une finaliste Grand Chelem. Ben oui, une autre semaine décevante, mais tu l'as dit, un tableau pas évident. Les tableaux difficiles s'accumulent pour nos Canadiens encore une fois cette année. Mais ce qui me ravit du côté de Leila, c'est qu'elle parvient à continuer de gagner en double. Là, elle joue en double mix à l'heure où on se parle. Les manches ont été partagées en début de match, perdues en double féminin. Mais quand même, elle joue du tennis, elle gagne des matchs. Puis dans une période où c'est plus difficile, ben pourquoi pas juste jouer le plus possible?
Ben, moi, j'ai bien aimé la performance de Leila contre Garcia. Écoute, 18 au match tie-break du troisième set. Je comptais sur un passage à vide de Caroline Garcia, qui est connue pour avoir des hauts et des bas dans certains matchs, mais c'est elle qui a été plus forte mentalement, qui jouait avec plus de confiance sur les gros points, mais ça s'est joué vraiment à rien. Je pense que Leila doit être très déçue, mais elle doit être contente quand même de sa performance contre Garcia, qui est quand même cinquième favorite là, sur ce tableau-là. Donc, moi, je dirais mission accomplie pour Leila. Très, très belle bagarre. Elle parle maintenant de finir la saison sans coach. Donc, elle s'est séparée du coach qu'elle avait signé en fin de saison passée. C'est son père qui va la suivre à distance. Je pense qu'il y a un côté de maturité qui rentre aussi du côté de Leila en ce moment. Il y a des changements qui se font au niveau de son entourage qui sont plutôt positifs pour moi. Donc, bravo quand même à Leila pour ce match contre Caroline Garcia. Là. C'est un bon Wimbledon pour Leila malgré tout. Ouais.
Ben, Hugues, toi, tu es disponible comme entraînement?
Si... Non, je n'ai pas le temps en ce moment.
Isabelle, tu voulais acheter quoi?
Je disais que j'étais d'accord avec Hugues parce que de dire qu'on est déçu de sa performance, c'est d'être très sévère envers une jeune athlète. Elle est jeune aussi, Leila, n'oublions pas. Moi, je trouve que, elle a très bien sorti. Elle a profité des erreurs en premier set de Garcia. C'est une joueuse d'expérience, Garcia. Bon, elle l'a aussi battu en double féminin. C'est sa bête noire peut-être, mais ça reste que c'est une grande joueuse. Et ça a été de peu de choses, selon moi, de ce que j'ai vu. Bon, je ne suis peut-être pas la même experte que vous, mais je l'ai trouvée combattante. J'ai vu qu'elle est montée au filet. Elle a peut-être hésité quelques fois, mais c'était du beau tennis. Puis ça me donne confiance pour la suite, au contraire. Puis je suis d'accord qu'il faut qu'elle continue à jouer. Il faut qu'elle croie en ses capacités parce qu'elle a cette force en elle. Elle a une force mentale, Leila, qui est très, très présente. Elle n'abandonne jamais. Et bien, Garcia aussi, elle n'abandonne jamais. Puis c'est une championne. Elle sait comment gagner. Et ça a été ça, selon moi, la différence dans ce match-là.
Ben, en tout cas, c'est jamais facile d'affronter une fille comme Garcia. Ce qui est décevant, c'est qu'à chaque match, ce sont des matchs accrochés. Et on se dit qu'elle a une chance. Et à chaque fois, il ne manque pas grand-chose. C'est ça qui est un peu dommage dans le cas de Leila contre Garcia. Rapidement, on avait 4 Canadiennes dans ce tableau-là. Rebecca Marino, c'est une autre défaite au premier tour. Je ne sais pas si on a quelque chose à ajouter nécessairement sur Rebecca, mais c'est un peu... elle aussi, un copier-coller des dernières semaines, ne gagne pas beaucoup. Et dans le cas de Carole Jao, ben, elle a perdu également au premier tour, mais c'était déjà mission accomplie dans son cas. Parce que, première présence, une finale, une qualification, c'est-à-dire, et elle a quand même battu une fille comme Coco Van de Ve, évidemment pas Coco Gauff, là, en qualification, et une fille comme Arantxa Rus, qui en a vu d'autres là, sur le circuit. Alors, je pense qu'on peut dire mission accomplie, mais je veux vous entendre sur Bianca Andreescu. Isa, je vais commencer avec toi.
Bien, en fait, j'ai envie, moi, de vous rapporter les paroles de Maria Sharapova qui disait dans Breakpoint, là, l'émission sur Netflix, que Wimbledon, c'est le tournoi qui met le plus de pression, c'est le plus prestigieux. Hein? Et vous allez voir où est-ce que je m'en viens avec ça, c'est que peu importe la performance, il ne faut pas oublier ça, comment ça a un impact dans la performance. Et la chose que j'ai aimée de Bianca, ce qu'elle a dit sur la dernière partie, c'est qu'elle a réalisé un rêve. Elle a joué sur le court central de Wimbledon. Et ça, c'est un gros étape. Et elle a bien fait. Moi, j'ai été contente de sa performance. Je trouve que ça tenait à peu de choses. Jabeur, elle a été vraiment... Elle est revenue... elle s'est accrochée. C'est deux joueuses qui se ressemblent, moi, je trouve. Ils ont de la combativité. Elles n'abandonnent jamais. C'est jamais gagné ou c'est jamais perdu parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, j'ai beaucoup apprécié le spectacle. J'aurais aimé que Bianca s'en sorte gagnante parce que j'aurais aimé ça la voir continuer dans ce tournoi-là. Elle faisait bien. Et j'avais vraiment je trouve qu'elle a fait des belles choses. Je pense que c'est Nicolas qui a dit, j'avais l'impression sur Twitter de revoir la Bianca de 2019, mais je suis un peu d'accord. J'avais l'impression de revoir Bianca de la 2019 avec son courage et sa détermination.
Ben, elle a eu ses chances dans ce match-là, c'est sûr. Je pense qu'au final, ça reste quand même un bon tournoi dans le contexte de sa saison. Et contre Jabeur, ben, c'est une fille qui pourrait très bien remporter ce tournoi-là également. Alors, je pense que dans son cas, c'est mission accomplie. Nico, je veux t'entendre sur Bianca.
Ah, j'étais tellement... optimiste avant le début du match. J'avais même dit au collègue Greg Langteau que je pensais que Bianca allait parvenir à battre 11 Jabeur de manière assez longue et ardue, mais je pensais quand même que qu'Andreescu allait avoir l'avantage. Tellement son match contre Kalinina avait été exceptionnel. Isabelle m'en a fait mention, je l'ai souligné sur Twitter. J'ai revu pendant quelques instants, la Bianca championne de Grand Chelem et championne de l'Omnium en 2019. Elle était combative, elle était tenace, mais en même temps, c'était plein d'allégresse puis plein de précision. Et dans ce match-là contre 11 Jabeur, la première manche a été extraordinaire. C'était du Bianca mur à mur. Elle était offensive en haut de terrain. C'était spectaculaire, ses volées. J'ai jamais vu Bianca aussi agile, aussi en jambes, avec autant de dextérité au filet. Deuxième manche, la sixième tête de série qui est 11 Jabeur est revenue. Et là est arrivé ce qui est arrivé. Des lettres de pluie, puis j'ai pas envie d'y aller dans les si et dans les peut-être que. Il n'en demeure pas moins que c'est un impondérable qui fait partie du tennis, qui fait partie de Wimbledon. Mais j'ai quand même la forte impression que sans cette pause-là de 47 minutes, Bianca pliait ce match-là. Pas aisément, mais je pense quand même qu'elle avait assez de momentum. Elle avait des points. C'était une belle séquence. Oui, Jabeur venait de la briser, mais quand même. J'ai envie de dire que la pluie a franchement aidé Jabeur et elle-même l'a reconnu en point de presse directement sur le terrain. Elle l'a dit. La première chose qu'elle a dite, c'est « Je suis content que la pluie ait eu lieu parce que j'ai pu parler à mon entraîneur puis revoir ma stratégie. » Ce qui ne serait pas arrivé avec pas de pluie.
C'est là que ça s'est joué. Clairement, pour moi aussi. Je regardais les stats au moment de la pause de pluie. Jabeur gagnait beaucoup de points en première balle, mais son pourcentage de première balle était très bas. Si elle montait juste un peu son service en première balle, ça ferait une différence. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Certains que son coach a vu les stats et ils ont fait le petit ajustement. C'est ça qui fait qu'elle est passée au-dessus. Mais bravo à Bianca Andreescu. C'est un tournoi réussi. Première présence sur le central, vous l'avez dit. Puis je dirais que son sourire en conférence de presse révélait beaucoup. Elle est contente d'elle et elle a raison d'être contente d'elle. Elle jouait contre la finaliste 2022. Ce matin, Jabeur a sorti promptement Petra Kvitova, qui est une des joueuses qu'on voyait peut-être comme une fille qui pouvait se rendre loin sur le tableau. Donc, Jabeur est en grande forme en ce moment. Mais Bianca a fait un très, très bon Wimbledon. A dû enchaîner plusieurs matchs dans un court laps de temps. Elle a joué son match de premier tour au quatrième jour. Donc, elle a dû enchaîner 3 matchs en 3 jours après. Là. Donc, ça, c'était pas évident non plus. Donc, Bianca est en forme. Ça promet pour le reste de la saison. Bravo, Bianca Andreescu. Et j'ai appris que c'était une des joueuses que Netflix suivait pour Breakpoint saison 2. Donc, il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent pour Bianca. Là. Elle peut être très contente. Et je pense qu'on va voir son chien Coco dans les épisodes de Netflix l'an prochain.
51% ouais. Hugues, le pourcentage de première balle en fin de match pour Jabeur. 50%, c'est minime pour une joueuse de ton calibre. C'est pour ça que tu l'as dit, Bianca aurait tellement dû capitaliser sur les deuxièmes balles parce que, mine de rien, Jabeur n'est pas une immense serveuse. C'est là aussi que ça s'est joué, tu as bien raison.
Mais elle a quand même monté, tu vois, avant la pause de pluie, elle était à 42-44, mais elle a gagné 95% de ses points en première balle. Donc, tout ce qu'elle pouvait aller chercher un petit peu plus, c'était du bonus. Et la différence, elle s'est jouée là. Quand même 6-4 au troisième, c'était un match extrêmement serré.
Pourcentage de chance qu'on voit le chien de Bianca Andreescu dans Netflix, 100%. Isaac, avant qu'on passe à quelques autres histoires du tournoi, tu veux nous amener un peu plus loin sur le cas de Bianca Andreescu?
Bien, en fait, je ne sais pas si vous êtes allé signer la promesse d'expérience de tennis positive de bénévole de Tennis Canada, mais moi, je l'avais fait. Et en préparation pour Wimbledon, on avait reçu un infolettre avec un exercice de méditation avec Bianca Andreescu et Tara Costello, qui est du Centre de santé mentale. Et j'invite vraiment les gens à aller la signer. Je pense que c'est important. Puis c'est pour pouvoir avoir accès à cette vidéo-là. Et c'est intéressant de voir Bianca, justement, qui fait, bon, c'est une expérience, ça dure 8 minutes, là, ça vaut vraiment la peine. Là, c'est une petite relaxation, un exercice de respiration. Mais je fais un parallèle parce que durant les parties, elle expliquait justement dans ce petit cours vidéo-là qu'il y a des moments où elle doit faire le vide dans sa tête. Et des exercices de respiration. Puis, bon, les professionnels comme nous, les amateurs de tennis, ou même dans la vie, c'est important de faire ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis, il y a des fois où ce que j'ai vu des pauses et je la voyais tenter de se recentrer. C'est comme si le fait d'avoir vu la vidéo m'a permis de comprendre qu'elle le fait vraiment durant une partie, d'essayer de se recentrer. Fait que je voulais juste faire un petit lien là-dessus parce que on le voit dans sa façon de jouer, qu'elle travaille énormément sur gérer l'anxiété, gérer le stress et de vider et de continuer à jouer avec le moment présent, ce que tout joueur doit faire, même toi, Hugues, et même toi, Nico.
Surtout Nico.
Surtout moi.
Surtout Nico. Ben voilà, ça fait le tour pour le résumé des Canadiens. Avant qu'on passe à un autre sujet, je veux qu'on reste quelques instants dans Wimbledon. On en a effleuré, on a effleuré le nom un peu plus tôt dans l'émission, mais Christopher Eubanks, Nicolas Richard. Bon, on a parlé de lui un peu la semaine passée, là, il avait fait de bons résultats, mais quand même, il est en train de charmer le monde du tennis, ce petit gars-là.
C'est hallucinant ce qu'il fait. Il est sorti plus tôt ce matin, Stefanos Tsitsipas, rien de moins. Il affrontera un certain Daniil Medvedev. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que les deux ont comme des styles complètement différents. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura tout un match de tennis et peut-être même que le clou du spectacle va se faire entre les points ou après la partie ou un peu avant dans le couloir menant au terrain. Bref, ce jeune garçon, je pense, est en train de faire écarquiller bien des yeux. Et pourquoi pas une histoire? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas une belle histoire, Cendrillon, d'un gars qu'on n'attendait pas du tout. Eubanks a le profil, je pense, pour séduire bien des amateurs de tennis autour de la planète.
Et c'est un late bloomer, comme on dit. Il a 27 ans. C'est une histoire un peu à la Karatsev, là, où son éclosion, elle est assez tard. Et puis, il avait gagné le tournoi de Majorque la semaine passée sur gazon, justement. C'est quand même pas Wimbledon. Et là, qu'il enchaîne plusieurs tours. En tout cas, c'est une histoire assez spectaculaire. Hugues, je veux t'entendre sur Christopher Eubanks.
Il est quand même pro depuis 2017. Hein. Tu as raison de dire que c'est un late bloomer. Mais quel personnage attachant, Christopher Eubanks. Je suis content de le voir là. Et Tsitsipas, il fallait aller le chercher parce que Tsitsipas a quand même, bon, c'était son 4e match en 5-7, là, il faut le dire de suite. Il connaît un tournoi où il s'est particulièrement bien battu, Tsitsipas. On sait que c'est lui qui a sorti Andy Murray. Mais Eubanks, je pense qu'on n'a pas fini de le voir dans ce Wimbledon. Bien que Medvedev trouve toujours des solutions, il semble, je pense qu'il va jouer contre un joueur qui connaît peut-être un petit peu moins en Eubanks. Il pourrait se faire surprendre. J'ai bien hâte de voir ce prochain tour de Medvedev qui a gagné rapidement sur abandon là, aujourd'hui de Lechka, qui a arrêté après 2-7 sur une blessure au pied. Mais Chris Eubanks, pour un autre joueur américain qui est clos en ce moment, et ça fait plaisir de voir cette performance. Très grand gaillard, très beau service. Un jeu qui est bien adapté aussi à la surface du gazon de Wimbledon. Donc, espérons qu'il va continuer d'avancer. Moi, j'aimerais ça aussi avoir une histoire Cendrillon du côté masculin. On a eu Mira Andreeva, 16 ans, qui s'est inclinée du côté féminin. On en parlera un petit peu plus tard. C'était une belle histoire aussi. Mais c'est toujours passionnant de voir durant un grand chelem un nouveau nom qui apparaît.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il bat Medvedev, ça va être une méchante histoire parce que, oui, il a battu Stefanos Tsitsipas, mais il avait également battu Cameron Norrie un peu plus tôt dans ce tournoi-là. C'était déjà une bonne histoire à Christopher Eubanks. Et là, il en met plein la vue. Ça, c'est assurément. Et Hugues, effleuré le nom de Mira Andreeva. Je veux que tu nous parles de son histoire parce qu'elle aussi, elle aura marqué à sa façon ce Wimbledon-là.
Ben écoute, joueuse de 16 ans, russe, issue des qualifications, adorable aussi en conférence de presse. Bon, il y a toute cette histoire avec Andy Murray, elle est très gênée, timide, elle aimerait ça y parler, mais elle n'ose pas y parler. Donc, quand Andy Murray arrive dans les conférences de presse ou sur le site, elle dit « je me pousse du site au plus vite parce que je suis trop gênée, je voudrais y parler, mais j'ose pas, donc je m'en vais ». Mais quel tournoi elle nous a livré en se rendant jusqu'au huitième de finale, en fait, Andreeva. Et j'entendais notre collègue Valérie Tétrault ce matin dire à BPM Sport, on souhaite de tout cœur qu'elle vienne à l'Omnium Banque Nationale, évidemment, qu'elle s'inscrive pour les qualifications, parce qu'elle est encore sous la 100e place mondiale. Elle va progresser, évidemment. J'ai pas vu les live rankings ce matin, mais je pense qu'elle va devoir encore passer par les qualifications à Montréal. Mais c'est l'histoire du côté féminin la plus intéressante. C'était la première joueuse depuis Coco Gauff à se rendre si loin du côté féminin à Wimbledon. Donc, bienvenue sous la grande scène et sous les projecteurs, Mira Andreeva. Très rafraîchissant.
64e, Hugues, au Ranking Live.
Dernier élément, à la lumière de ce que vous avez vu cette semaine, est-ce que vous conservez votre choix de Novak Djokovic, Nico et Hugues? Nico, je commence avec toi.
100%, c'est tout ce que je dirais.
Du côté des femmes, maintenant?
Sabalenka également, je conserve.
Sabalenka, Hugues?
Même chose pour moi. Des belles surprises avec Dimitrov et Berrettini qui seront en deuxième semaine. Mais je garde Djokovic et je garde Sabalenka pour mes choix masculins et féminins.
Oui, la resurgence de Berrettini même, qui a déjà été finaliste dans ce tournoi-là.
Même Dimitrov vient d'enlever une manche à Algeroun.
On sait à quel point c'est un joueur talentueux, celui qu'autrefois on surnommait Baby Federer. D'ailleurs, il ressemble étrangement un peu quand il bouge sur le terrain à Dimitrov. C'est tellement un joueur intelligent. Puis, tant mieux s'il n'est pas blessé, parce que moi, je me souviens, quand j'étais à Indian Wells, j'étais allé voir un de ses matchs et sur le terrain, il se plaignait énormément de jouer avec un seul genou. Là, alors, c'est, visiblement, il est beaucoup mieux. Et pour les prédictions, je vais moi aussi conserver les miennes en disant que Alcaraz va l'emporter et que ce sera Sabalenka du côté des femmes. C'est ce que je vais dire. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Rapidement, que Dimitrov est rendu avec Lacoste, ce que j'avais ignoré. Et là, il brille de tout feu avec un bandeau et un polo Lacoste. Lui qui était très, très Nike auparavant. Hugues pourra en parler davantage, mais c'est étonnant. T'sais, Lacoste qui n'a pas beaucoup, tu sais, il n'est pas aussi répandu qu'Adidas ou Nike, mais là, paraît quand même bien à Wimbledon.
Lisa?
Moi, je vais y aller de mes prédictions. Là. Je ne les avais pas faites, mais moi, j'irai avec Sabalenka, avec Alex. J'ai comme l'impression que, elle n'a pas eu le début de tournoi qu'on s'attendait, mais je trouve que ça pourrait. J'irai avec Saba, puis j'irai avec Djoko au niveau des hommes. Fait que je suis entre les deux.
Pas une prédiction. On n'est pas allé dans les prédictions très champ gauche. Tout dans notre cas. Intéressant. On va suivre ça d'ici la fin de la semaine. Autre élément qu'on suit d'ici la fin de la semaine, je vais vous faire entendre une petite.
Bonjour Montreal, Caro here. I'm so excited to be returning to tour, but most of all to come back to Montreal and play in front of all of you at DNBO. I have so many amazing memories from playing back in 2010 and winning the tournament there. So I can't wait to see all the fans back in Montreal and to play in front of an amazing crowd. Je vous aime et j'ai hâte de vous voir.
Nous aussi, on t'aime, on a hâte de te voir.
Je vous aime et j'ai hâte de vous voir. On en avait parlé la semaine passée. On avait eu la primeur de Caroline Wozniacki qui allait effectuer son retour au jeu. On l'entend beaucoup quand même dans les médias, Caroline Wozniacki, comme analyste. Mais là, ce sera le fun de la revoir sur le terrain. Une des certainement meilleures joueuses de sa génération. Mais si je vous ai fait écouter cette clip-là, bon, c'est effectivement le message que Tennis Canada a sorti. Mais c'est qu'aussi, on a appris aujourd'hui que Venus Williams allait recevoir un laissez-passer également pour l'Omnium Banque Nationale. Isabelle, je commence avec toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite de voir ces deux grandes joueuses-là qui vont venir performer sous nos yeux ici même à Montréal?
Ben oui, moi, je suis vraiment emballée. Puis tu sais, rappelez-vous, encore là, je vais encore citer Netflix, là, mais on a... Tu sais, les amateurs de tennis, on a connu le tennis avec les sœurs Williams. Et d'avoir une Venus Williams qui revient à Montréal à 43 ans, sa 12e présence, tu sais, c'est extraordinaire de pouvoir l'avoir. On l'a vu à Wimbledon, comment elle s'est battue. Elle fait soulever, elle fait déplacer des foules. Puis bon, Caroline Wozniacki aussi, là, on s'entend. Là, je pense que ça va, ça rajoute... déjà que j'étais très emballée, je suis convaincue que tout amateur de tennis était emballé de venir à Montréal. Ça rajoute encore là au spectacle et ça va être des parties qui vont être très, très recherchées selon moi.
Nico, est-ce que ça rajoute des couleurs à l'arc-en-ciel pour toi d'avoir Venus Williams ici?
Ben, j'ai envie de dire que rendu là, je m'attends quasiment au retour de Kim Clijsters et Samantha Stosur avec ce spécial nostalgie que nous offre l'Omnium Banque Nationale. Ça va être franchement chouette parce que c'est deux filles que les gens aiment beaucoup. Et puis, non, c'est que des bonnes nouvelles. Après, vont-elles gagner le tournoi? Je gagerai pas ma boîte de pâte d'ours flambant neuve. Mais si on a un ou deux matchs relevés, ce sera mieux accompli.
Mais je vous dirais, gang, ça rajoute à l'excitation autour du tournoi parce qu'il y a plusieurs boîtes là-dedans. Il y a les joueuses canadiennes, évidemment, à tête d'affiche qu'on adore. Il y a les meilleurs mondiales, évidemment, Sabalenka, Ongjabeur et autres qui vont être là. Et les grandes stars du passé qui sont encore là. Donc, au niveau de la programmation pour une Valérie Tétrault et son équipe, ça devient très, très intéressant pour les ventes de billets aussi. Donc, moi, je pense que c'est excitant de voir ces grandes championnes cette année à Montréal, peu importe la performance qu'elles vont donner. Et on peut avoir quelques surprises ici et là quand même.
Et j'ajouterais même comme boîte, Hugues, les anciennes championnes qui rayonnent toujours, Kvitova, Azarenka, des joueurs comme ça qui refusent de mourir et qui, ultimement, offre du tennis de très, très grande qualité, malgré tout, parce qu'elles étaient en même temps que Wozniacki dans leur, pardonnez-moi l'expression, dans leur prime, et elles sont toujours là.
À quand le retour de, un, Serena Williams et, deux, Ashley Barty? C'est ça les questions qu'on se pose, Nico.
Ben là, elle est enceinte.
Je parierais plus de celui d'Ashley Barty que celui que Serena, par exemple.
Mais si ça peut motiver Eugénie, Bouchard à faire un tournoi de qualification solide, pourquoi pas? Je pense pas qu'elle aurait une wild card. Écoute, attention, je suis prudent là-dedans, mais j'aimerais ça voir Eugénie dans ce contexte-là aussi, pouvoir rentrer sur le tableau principal.
Ouais, ben pour les wildcards, on verra. Je serais peut-être pas surpris, dépendant du contexte qu'on lui en donne. Là, honnêtement, Eugénie, elle est toujours très populaire. Isabelle, rapidement, tu voulais ajouter quelque chose?
Bien, je voulais juste, pour les gens, ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi les wildcards, comme les top 20, là, faut que tu aies. Comment on peut donner un wildcard? Parce que, bon, ceux qui sont nouveaux à suivre le tennis, il faut que tu aies occupé le premier rang mondial, tu as été dans le top 20 en 2022, tu as gagné un tournoi de Grand Chelem, tu as fait une finale de la WTA, ou tu as gagné les finales là, de fin d'année de la WTA, ou tu as gagné la WTA de 1000, au moins niveau 1000, pour pouvoir être considéré dans les wildcards. Je vais juste le mentionner parce que c'est pas tout le monde qui sait.
Bien, merci Isa pour la précision. On va faire une courte pause et au retour, on va parler d'investissement dans le monde du tennis. Ça fait beaucoup jaser et Abraham va venir nous parler des autres Canadiens en action cette semaine.
Offrez-vous un séjour à l'Hôtel Montville durant ces belles journées d'été. Bénéficiez de l'offre Kissoup d'or, incluant un rabais de 15% sur le meilleur tarif, un petit déjeuner gourmand et un souper 3 services dans le restaurant de l'hôtel, tout en profitant d'une suite luxueuse en hauteur. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Le cours de yoga à l'Hôtel Bonville est de retour le 23 juillet. Rendez-vous à 9h pour une séance de yoga collective inoubliable au 20e étage. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis grâce au partenariat avec l'Olé. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un petit déjeuner gourmand avec l'offre yoga et petit déjeuner. Rendez-vous sur hotelmonville.com.
On l'a vu du côté du golf, il y a eu des investissements des Émirats arabes unis et là, il y a des investisseurs qui s'attaquent au monde du tennis. Hugues, c'est un élément que tu as abordé à BPM plus tôt cette semaine. Peut-être nous faire un résumé de la situation et puis l'impact que ça pourrait avoir sur le monde du tennis.
Oui, c'est quand même une nouvelle importante. Beaucoup de gens en ont parlé à Wimbledon la semaine passée. Donc, le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, le PIF, le bien nommé, le PIF, est le sixième plus gros fonds souverain au monde avec 620 milliards de dollars d'actifs, avec un portefeuille colossal de 200 investissements. Mais ça s'inscrit dans cette lancée d'investissement des pays de la péninsule arabique après le soccer et la Coupe du Monde au Qatar, la Formule 1, Live Golf, évidemment, dont on a beaucoup parlé. Le tennis semblait le prochain choix logique et ça arrive, mesdames et messieurs. Donc, on est face à cette question-là avec les dilemmes éthiques, moraux. On sait qu'au niveau de certaines valeurs, on n'est pas au même endroit, mais les grands circuits considèrent déjà investissement-là, que ce soit Gaudenzi, qui est le président, donc CEO de l'ATP, ou Simon du côté de la WTA, les gens abordent ça de façon prudente, de façon diligente, mais se doivent de considérer cet investissement-là qui fera une grosse différence, surtout Steve Simon du côté de la WTA. On a annoncé récemment l'équité au niveau des bourses. Ça se fait pas qu'en claquant des doigts. On sait que WTA Venture a été fondé pour aider à financer cette parité au niveau des bourses, mais il faut des nouveaux fonds. Donc, ce fonds-là arrive, se dit intéressé. Billie Jean King s'est déjà positionné. Évidemment, c'est la référence au niveau équité puis au niveau innovation, je dirais comme ça. Billie Jean a toujours pensé très grand et a dit « Moi, je suis quelqu'un qui se doit de m'engager dans une discussion comme ça pour pouvoir faire évoluer les choses. » C'est le statement qu'elle a fait. Du côté joueurs et joueuses, la plupart des joueurs ont été assez ouverts aussi. Je pense aux deux numéro un mondiaux, donc Djokovic et Swiatek, qui sont dit ouverts à une discussion. Plus de réticence de certains joueurs. Je pense à Andy Murray qui a dit « Moi, j'ai pas fait d'exhibition là-bas. Il faut le considérer. C'est presque inévitable, mais je suis pas très à l'aise. » John McEnroe a dit qu'il était pas très à l'aise non plus. Il y a Kazatkina qui s'est... Diarra Kazatkina qui s'est positionné contre. Mais globalement, les gens disent « Il faut discuter parce que c'est nécessaire. » Donc, le fonds d'investissement saoudien. Moi, je pense que ça va aller plus vite qu'on pense. Il y a pas de calendrier qui a été annoncé, mais je pense qu'on va avoir des réponses dans les prochains mois sur cet investissement-là du côté du tennis. Tant masculin que féminin. Et je tiens à dire, je termine là-dessus, Alex, ça exclut les grands chelems. Hein. C'est pas l'ITF, c'est pas les quatre grands chelems. Ça concerne l'ATP et la WTA.
Ton dossier,
moi, j'ai juste aimé... Excuse-moi.
Ouais, tu voulais parler de Jessica Pegula qui a commenté la situation aussi.
Oui, c'est ça. C'est exactement là que je m'en allais. C'est que je trouve que ça m'a fait réfléchir les commentaires de Jessica Pegula. Quand elle a dit que pour elle, d'avoir une présence pourrait aider les femmes là-bas. Ça pourrait créer des rêves de jeunes filles de vouloir jouer au tennis et d'amener l'ouverture. Et j'avais jamais pris ce regard-là. Ça m'a fait réfléchir. Fait que je voulais juste le mentionner. Il y a tout le temps différentes façons, deux angles à regarder une situation. Et ça m'a amené à vouloir aller un peu plus loin dans cette réflexion-là.
Ouais, Ons Jabeur, qui est une joueuse tunisienne, évidemment un pays islamique, a pris la même position. Elle aussi a dit il faut le considérer. Elle fait rêver beaucoup de gens, Ons Jabeur, dans son pays. C'est un rayon de soleil pour son pays. Elle inspire beaucoup de gens et elle dit ben il faut y aller, c'est maintenant, c'est une opportunité pour que des jeunes filles puissent évoluer. Mais encore une fois, il faut voir ce qui se passe réellement dans les pays saoudiens. Et il y aura toujours un dilemme et un choix moral à faire. Mais je pense que le sport qui cherche des nouvelles sources de revenus et le côté féminin pourront trouver une façon de rendre ça acceptable. Mais évidemment, c'est une opportunité qui est trop importante pour l'ignorer.
Peut-être pouvoir changer les choses de l'intérieur. Et c'est des gens qui ont déjà bien assez d'argent, ces athlètes-là, pour pouvoir mettre leurs pieds à terre s'il y a quelque chose. Alors, en tout cas, ce sera intéressant. On verra jusqu'à quel point ils pourront maintenir leurs principes. On va aller rejoindre Abraham Santerre parce que, bon, on a parlé beaucoup de Wimbledon, mais il y a également d'autres joueurs canadiens sur la planète. Et bien, c'est Abraham qui nous fait toujours ce résumé-là. Abraham, je te laisse nous parler des autres Canadiens.
Yes, bien content de revenir vous parler pour parler des Canadiens qu'on parle moins au podcast. Premièrement, un qu'on connaît très bien, Alexis Gallarneau. Il a été en action la semaine passée au Michigan. Il s'est incliné au deuxième tour d'un Challenger. Mais cette semaine, il est encore maintenant à l'Illinois. En fait, il est à Chicago et il affronte un joueur que tout le monde connaît au premier tour, Kei Nishikori. Ça va être tout un match vraiment à surveiller. Donc, si vous voulez là, aller sur le site de Tennis Canada, site web, on peut avoir un lien pour aller voir regarder le match en direct. C'est gratuit, les Challengers. Donc, ça va être à surveiller sûrement en action mardi cette semaine. Et finalement, il y a deux tournois en action au Canada qui sont intéressants cette semaine. Premièrement, un W60 ITF pour les femmes qui a lieu à Saskatoon, en Saskatchewan. Il y a beaucoup de Canadiennes qui y participent, dont la sœur de Leila Fernandez, Bianca Jolie Fernandez, qui est en action dans le tableau principal dès le premier tour. Il y a aussi Stacy Fung, Victoria Mboko, Kayla Cross, beaucoup de Canadiennes à suivre là-bas. Et aussi à Laval, au Québec, un tournoi 25 000 pour les hommes. On a beaucoup de Canadiens à surveiller là, dont Braden Schnur, qui a reçu une wild card, qui va faire son retour au tournoi. Il y a aussi Liam Draxel, Taha Badi, un Québécois, et vraiment plein d'autres noms à surveiller. Donc, si vous voulez aller voir du tennis, allez à Laval, je pense même que c'est gratuit. Donc, beaucoup de Canadiens à surveiller cette semaine, et en vue de Granby, hein, qui va s'amorcer aussi bientôt.
Oui, ben c'est le point que j'allais faire. Ce sont tous des noms, ou presque. Vous avez des bonnes chances de voir à Granby, ouais, incluant possiblement un gars comme Alexis Gallarneau. Voilà. Isa, avant qu'on termine l'émission, rapidement, tu as un anniversaire important à souligner.
Hey, en ce 10 juillet 1943, c'était la naissance d'un certain Arthur Ashe. Rappelez-vous, c'était le premier noir à avoir gagné 3 grands chelems, Wimbledon, le US Open et l'Australian Open. Je trouvais que c'était nécessaire de le souligner aujourd'hui, très joyeux anniversaire.
Et le plus gros stade de tennis au monde porte son nom, oui, également. Hugues, un dernier message, je veux souligner une collaboration qu'on a commencé à développer dans les dernières semaines.
Oui, et je souligne encore Arthur Ashe, c'est celui qui a découvert au Cameroun Yannick Noah, champion de Roland-Garros 83, dont on fêtait l'anniversaire cette année aussi. Donc, tu fais bien de le mentionner, c'est un anniversaire important, Isabelle. Rapidement, on est en train d'une collaboration avec Courts Magazine, qui nous fournit de très, très belles photos de Wimbledon tous les jours. Allez voir ça sur nos fils, Facebook, Instagram. C'est une collaboration qui va grandir dans les prochains mois. On va en reparler davantage dans le Miam Banque Nationale. Un très, très beau magazine sur l'arrière du décor, l'envers du décor du tennis et des relations avec les plus grands joueurs. Donc, on a un accès privilégié là, au plus beau terrain de Wimbledon cette année avec des photos spectaculaires là, de Courts Magazine. Donc, allez voir ça sur nos fils.
On commence à avoir des tentacules un peu partout dans le monde du tennis et un peu partout sur la planète. Merci infiniment à tous pour votre participation. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes et nos chiffres continuent d'augmenter. C'est toujours le fun à voir. Et Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Isa, bon tennis Eber, bon tennis tout le monde!